Dans le baillon du Bab, il y a un passage très intéressant où le Bab dit la chose suivante. Il dit, d'abord il affirme que chaque révélation est complète, est universelle. Parce qu'évidemment, une idée qu'on pourrait avoir de la révélation progressive, c'est que seulement la révélation Baha'i, par exemple, qui est le point culminant d'un cycle et tout ça, est complète. Toutes les autres étaient partielles et tout ça, c'était des étapes, etc. Donc il y a la question philosophique ou théologique qui se pose, est-ce que chaque révélation est complète? Est-ce que ça contient tout? Alors, la réponse dans la foi Baha'i, dans les écrits Baha'i, donnés par le Bab, Baha'u'llah, Abdu Baha, en fait tout le monde, c'est que non, chaque révélation est complète en soi, mais c'est la progressivité, c'est l'explicitation, c'est-à-dire ce qui était implicite ou caché dans les révélations antérieures devient explicite. Donc ce n'est pas une progressivité de la puissance ou de la qualité de la révélation comme telle, mais une progression dans l'explicitation des choses. Par exemple, rappelez-vous que dans les extraits des écrits, Baha'u'llah dit par exemple que chaque manifestation de Dieu possède tous les attributs de Dieu. Il dit le fait que telle manifestation n'a pas montré ouvertement tel ou tel attribut ne veut pas du tout dire qu'il ne possédait pas cet attribut, n'est-ce pas? Et il y a une autre tradition qui est très intéressante, qui vient du prophète, où on dit la chose suivante, il dit toute la signification du Coran se trouve dans le premier surah. Et toute la signification du premier surah se trouve dans la première ligne du premier surah. Et toute la signification de la première ligne se trouve dans le premier mot. Et toute la signification du premier mot se trouve dans la première lettre. Et la lettre, c'est un N qui a un point en dessous, enfin comme dans le plus grand nom. Et il dit, et toute la signification de la première lettre se trouve dans ce point qui est en dessous. Ce qui rappelle aussi la tradition que Baha'u'llah cite souvent, que la connaissance est un point et les ignorants l'ont multiplié. Et dans ses écrits, Baha'u'llah dit la chose suivante, il dit, il y a un mot, bon, il affirme très explicitement la complétude de sa révélation, que ça contienne une description complète de toute la réalité. Mais de façon, évidemment, voilée, métaphorique et tout. Et il dit, il y a un seul mot que j'aurais pu révéler, que si je prononçais ce mot, toute personne habitant sous la terre aura immédiatement acquis toute la connaissance de toutes les sciences passées et futures. Tout le monde aurait accepté la manifestation et obéi parfaitement à ses lois. Avec si je prononçais ce seul mot, il parle aussi d'un mot qu'il pourrait prononcer, qui recèle, ce seul mot recèle toute la connaissance des sciences que le monde ne pourrait jamais découvrir. Donc, dans ce passage du Béant, le Bab dit la chose suivante. Il dit, chaque révélation du passé était universelle. Et je pense que le sens du mot universel dans ce cas-là, c'est vraiment complète, c'est-à-dire que ça embrasse tout. Et il dit, prenez la révélation de Moïse. Il dit, aussi longtemps que les Juifs suivaient les commandements de Moïse, ils passaient de triomphe en triomphe. Mais quand ils se sont écartés, des principes de Moïse, ils tombaient graduellement dans le désarroi et tout ça, ils étaient défaits, etc. Il dit, sache que si les Juifs avaient continué à suivre fidèlement les lois de Moïse, que tout être sur la terre serait devenu juif, enfin adepte de la religion de Moïse. Donc il dit, chaque religion a le potentiel d'être universelle, mais c'est à cause des défaillances des adeptes dans leur obéissance envers les principes que cette université ne s'est pas réalisée. Puis il reprend avec le christianisme, il dit exactement la même chose, que le christianisme était universel, et si les adeptes de Jésus avaient continué à suivre fidèlement les enseignements de Jésus, que tout être sur la terre serait devenu adepte de Jésus. Et il dit, mais les adeptes ont défailli à cela, et c'est à cause de cette défaillance des élèves, des adeptes, que la religion n'est pas devenue universelle. Et puis il dit la même chose pour la révélation de Mohammed. Donc je ne vous répète pas la formule, il dit exactement la même chose pour la révélation, que c'était universel, mais qu'à cause de la défaillance des adeptes, l'islam est tombé dans la dégradation. Puis il dit la même chose pour sa révélation. Il dit, ma révélation aussi est universelle, et ça pourrait gagner tous les adeptes du monde, mais ça va dépendre des actions de mes adeptes. Et il dit, mais la religion ou la révélation de celui que Dieu doit manifester, qui est le terme dans le béant pour Baha'u'llah, n'est-ce pas, parce que Baha'u'llah ne s'était pas déclaré à ce moment-là, donc dans le béant, le centre du béant, c'est celui que Dieu doit manifester. Si vous lisez le béant, vous allez voir qu'à toutes les pages, il y a mention, plusieurs mentions de celui que Dieu doit manifester, tout ça, ou doit rendre manifeste. Et il dit, ça sera la même chose pour la révélation de celui que Dieu doit rendre manifeste. Sa révélation sera, comme la révélation passée, complète et universelle. Mais dans le cas de cette révélation, cette université sera réalisée. Que pour sa révélation, son succès ultime n'est pas contingent sur l'agissement des adeptes. Que ça sera universel, c'est la volonté de Dieu, cette université sera réalisée. Et Shoghi Effendi, en commentant ce passage du Béant, dit la chose suivante. Il dit, ainsi, nous savons que le succès ultime est garanti, que ça ne dépend pas de nous, il dit. Cependant, si nous ne faisons pas des efforts supplémentaires, nous pouvons retarder indûment cette consommation, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est comme automatique que ça va venir, peu importe ce qu'on fait. Il dit, ce qui est garanti, c'est que tôt ou tard, ça viendra. Mais que quand même, par nos manquements, ça peut retarder la chose. Et il dit, dans ce cas-là, la souffrance de l'humanité et notre souffrance sera d'autant plus grande. Et puis, il dit aussi, ce qui est évident, une chose qui est à peu près le suivant, il dit, et bien sûr, si nous ne participons, nous perdons. C'est-à-dire, ça va venir, mais ça ne va pas venir à nous si nous ne faisons pas l'effort. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire, de dire que ça va devenir universel veut dire que tôt ou tard, les hommes vont se grouiller. C'est pas que ça va descendre par magie du ciel, ça veut dire que si ce n'est pas cette génération ou la prochaine génération, il viendra fatalement une génération qui suivrait fidèlement les principes de Baha'u'llah et que c'est à cause de cette volonté qui viendrait évidemment par la suite des souffrances énormes, n'est-ce pas? Donc, parfois le discours à propos de la foi pourrait laisser croire, enfin, la façon que c'est articulé dans certains contextes, que le futur de l'humanité repose vraiment sur ce que nous faisons. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire la configuration ultime de l'humanité est prédestinée, et ça c'est très clair, mais la quantité de douleur, de souffrance, de désarroi par lequel l'humanité doit passer pour arriver à cela, ça dépend des efforts que nous faisons ou ne faisons pas. Maintenant, il faut réfléchir à la chose suivante. Pourquoi? Bon, ok, il y a un autre élément de la chose avant d'arriver à cela. Maintenant, l'autre élément est le suivant. Baha'u'llah a dit que quand je suis venu au monde, quand je suis venu à l'humanité, que j'ai vu que toute l'humanité était plongée dans un sommeil profond. Et que personne, aucun être sur la terre était digne de recevoir cette révélation. Ok. Et donc, la révélation, elle est parfaite. Mais l'humanité était imparfaite non seulement dans le sens relatif que sa perfection n'est pas achevée, mais elle était imparfaite au point de ne pas être capable même de reconnaître son salut. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Parce que rappelons que Baha'u'llah dit que dans la dispensation de chaque manifestation, cette manifestation a un pouvoir absolu. Donc c'est lui qui décide quoi faire devant les faits qui sont devant lui, n'est-ce pas? Enfin, comme Mahomet qui, face à ces hommes crus du désert, enfin, il les a traités avec beaucoup de rudesse, à un certain point de vue, enfin. Mais encore une fois, il fallait qu'il monte un prophète comme Jésus n'aurait jamais touché ces gens-là. C'est-à-dire, il fallait qu'il soit un homme macho et tout ça, à leurs yeux, pour qu'il soit convaincu de le suivre, etc. Donc, ce que Baha'u'llah a fait devant cette défaillance dans l'humanité, il a créé en Abdu'l-Bahá le récipiendaire prophète de sa révélation. Autrement dit, la révélation prophète devrait avoir un récipiendaire ou un répondant prophète. Et donc c'est pourquoi c'est très important que Abdu'l-Bahá n'est pas une manifestation. Parce qu'évidemment, une manifestation est prophète dans sa nature même, et bien sûr, la manifestation va reconnaître l'autre manifestation, comme Baha'u'llah a immédiatement reconnu là-bas, n'est-ce pas, en fait. Donc, c'est pourquoi c'est important que Abdu'l-Bahá était un homme ordinaire, dans le sens qu'il n'était pas surdoué. Et Shoghi Effendi dit que Abdu'l-Bahá est la plus grande création de Baha'u'llah. Il dit, de toutes les choses que Baha'u'llah a créées, ça veut dire tout le système des lois, tous les écrits, il dit, la plus grande œuvre de Baha'u'llah est Abdu'l-Bahá. C'est dans la dispensation. La plus grande œuvre que Baha'u'llah a faite, c'est Abdu'l-Bahá.
C'est un serviteur parfait.
C'est ça. Maintenant, si on remet ça dans le contexte de cette question d'universalité, la potentialité des révélations. La perfection enseignée par les révélations passées restait toujours un idéal à atteindre. Et on pourrait toujours se demander, comme beaucoup de philosophes se sont demandés, est-ce que cet idéal est réaliste? C'est ce que les gens veulent dire quand ils disent que la foi bahaï est utopiste. C'est-à-dire, tout le monde reconnaît que les principes bahaï sont excellents. Ça serait, le monde serait meilleur si tout le monde les suivait, n'est-ce pas? Mais on pourrait dire la même chose pour la foi chrétienne, la foi judaïque, la foi islamique, etc. C'est-à-dire, les principes de Dieu... Ça fait, il y a presque 4000 ans que Moïse a édicté les 10 commandements. Combien de gens que vous connaissez qui suivent toutes les 10 commandements de Moïse, n'est-ce pas? Si on mettait vraiment en pratique les principes de n'importe quelle des révélations, le monde serait un paradis, n'est-ce pas? Ça aurait déjà été un paradis. Mais donc, la défaillance... Ok, une autre chose. Abdu'l-Bahá explique aussi que c'est seulement un poignet des adeptes qui n'ont jamais compris le vrai sens de la révélation. Et c'est un passage où il parle de ce qu'il appelle l'autorité explicite et l'autorité implicite de la manifestation. Il dit, quand la manifestation vient, tout être sur la terre est sous l'autorité implicite de la manifestation. Il est sujet absolument, quoique implicitement, à l'autorité de la manifestation. Mais ces vrais adeptes sont ceux qui reconnaissent explicitement son autorité et qui font un choix autonome pour se soumettre à cette autorité. Et le nombre de personnes qui arrivent à ce point-là est un poignet de personnes, dit Abdu'l-Bahá. Il dit, dans un passage, il dit, même si le nombre des adeptes de la foi chrétienne se chiffre par des millions, c'est seulement un poignet qui ont vraiment compris qui était Jésus. Il dit la même chose pour l'islam, etc. Et puis, n'est-ce pas là notre vécu, n'est-ce pas? Nous voyons l'Église catholique, par exemple, nous avons tous subi, les prêtres qui étaient comme des robots, qui récitaient des prières, sans même savoir ce qu'ils faisaient, etc., etc. N'est-ce pas, ça qu'on voyait. Combien de personnes on a vu dans l'Église catholique qui avaient la moindre idée de l'essence même de la religion, n'est-ce pas? C'était complètement dégénéré dans les formulaires, des rites, des choses qu'on répétait sans comprendre, etc. Et c'est la même chose, regardez l'islam aujourd'hui avec les jihads, les guerres et tout ça, où les gens justifient les cruautés les plus grandes, etc., etc. C'est complètement à part de l'essence même de la religion. Et dans le secret de la civilisation divine, Abdu'l-Bahá donne un exemple de cela assez intéressant. C'est l'exemple... Il dit aux musulmans, si vous voulez vraiment attirer les gens à la religion, il dit, l'islam c'est la vraie religion de Dieu. Et il dit, même il se moque un peu de ses frères musulmans, il dit, regardez par exemple que même les protestants d'Europe, il dit le protestantisme c'est une branche plutôt moderne de la foi chrétienne, etc., etc. Donc c'est un deuxième dérivé, si vous voulez, de la foi chrétienne. Il avait d'abord l'Église qui était déjà un dérivé et pas la vraie chose. Et ensuite, il avait une dérivée d'une dérivée, etc. Il dit, mais maintenant les protestants, on voit des missionnaires en Afrique où ils convertissent les musulmans à leur foi. Il dit, quelle honte que nous avons la vraie religion, et là, des gens quittent la vraie religion pour une religion qui est moins développée, etc. Et il a dit que les musulmans ont fait fausse route en voulant imposer la religion par la force au lieu d'attirer les gens par la vertu, par l'amour et tout ça. Il dit que c'est ça qui attire les gens. C'est les perfections. Il dit, c'est l'amour qui attire les gens. Et à ce propos, il raconte une histoire que je ne vais pas raconter en détail, mais c'est l'histoire d'un roi islamique qui était un peu ivre de son pouvoir, qui avait décrété, qui il se saoulait à un moment donné, Et dans son ivresse, il avait tué ses deux meilleurs amis. Et quand il est revenu à lui-même, il a vu ce qu'il faisait. Il leur a dressé un tombeau et tout ça. Il a dit, sur l'anniversaire de leur mort, on va sacrifier le premier homme que je vois le jour de l'anniversaire. Moi, je vais le sacrifier en souvenir de mes amis. Alors, il est arrivé que c'était un étranger, un chrétien, qui, je dis certains rois islamiques, mais ce n'est pas vrai, c'était avant l'islam, c'était dans la période barbare avant l'islam. Donc bref, ce type est paru, et c'était lui, le malheureux, que le roi avait vu, enfin, au jour où il dit, mais voilà, le roi ne peut pas changer son décret, donc il faut saisir ce type, il faut le mettre à mort. Alors le type a dit, écoutez, j'ai une famille, j'ai des choses à mettre en ordre, il dit, lâchez-moi et je vous promets de revenir l'année prochaine. Et j'accepte ce sort si vous me donnez tout ça. Alors, il avait convaincu le roi de le relâcher. Alors, le roi l'a relâché et l'année prochaine, jour pour jour, le type arrive. Et le roi est complètement bouleversé. Il dit, mais tu étais libre, pourquoi tu es venu? Et maintenant, je suis obligé de vous mettre à mort et tout ça. Je suis obligé d'exécuter mon décret et tout ça. Mais en fait, je pense que vous avez compris, qu'en vous relâchant, je supposais que vous n'allez pas tenir votre parole. Il dit, non, je suis un adepte de Jésus, je tiens ma parole, je suis là. Et le roi, selon Abdullah, était tellement bouleversé par l'intégrité de ce type, qui s'est converti à la foi chrétienne et tout ça, qu'il avait rescindé ses décrets et tout ça, enfin, donc, qu'il avait... il avait gagné une certaine perfection dans sa façon de diriger son royaume. Tout ça pour dire que ça, c'est un principe aussi dans la foi bahaï, que la vraie compréhension ou ce qu'on appelle l'obéissance explicite, ça a toujours été une poignée de personnes. Et ça n'a rien à voir, et Abdelbar dit très clairement, avec le nombre des adeptes. Et je m'excuse, mais je voulais juste relier toutes sortes de choses. Ça rejoint aussi une tradition dans la foi juive qui est la suivante. C'est une très ancienne tradition, je ne connais pas son origine. Mais devant le fait que la grande majorité des hommes n'arrivent pas à se soumettre vraiment à la loi de Dieu. Par exemple, même David, le grand David, a fait l'adultère et tout ça, en fait, n'est-ce pas, en fait. Donc la Bible est pleine des défaillances, des croyants, même des très grands, n'est-ce pas. Alors, devant ce fait-là, les juifs, les sages juifs, avaient développé une théorie qui est la suivante, qui vit toujours quelque part sur la terre 12 personnes parfaites. Et c'est la perfection de ces personnes seules qui soutiennent le monde. Autrement, le monde s'écraserait par le poids du péché des hommes. Donc c'est la qualité et non la quantité qui suffit. C'est ça l'idée. En tout cas, tout ça pour dire que cet idéal de perfection de la race humaine, ou de la perfection humaine, est resté dans la religion passée toujours comme un idéal à atteindre, mais qui n'a pas été atteint. Et à tel point que certains philosophes comme Marx, par exemple, ça c'était le jeu de Marx, c'est-à-dire que le faute, ce n'est pas dans la religion, le faute, c'est dans l'idéal. L'homme n'est pas capable de faire ça. Marx avait dit ça d'une façon particulièrement brutale. Il avait dit, la religion, c'est le cœur du monde. Et le monde n'a pas de cœur.
Le monde n'a pas de cœur.
Ok.
La religion, c'est la queue. On pense qu'il va dire quelque chose de positif. Il dit, la religion, c'est la queue du monde. Et le monde est sans cœur. Ok. Et Marx avait dit, c'est ça la faute de la religion, c'est d'avoir cru qu'on peut changer la nature humaine. Il dit, moi, Marx, je vais dresser un système qui va marcher parce que c'est conforme à la vraie nature humaine qui est égoïste. Donc Marx n'était pas du tout amateur de la nature humaine. Il considérait que les hommes étaient des bêtes, etc. Il avait une vision très négative des potentiels humains. Et c'est pourquoi son système est tellement brutal et tout ça, avec l'égalité absolue, parce qu'il disait ça, c'est la seule façon d'éviter les conflits, parce que tellement les hommes sont égoïstes. Si un homme a un petit peu plus quelque chose qu'un autre, ça va, le chicane va rentrer. C'est pourquoi il a cette notion d'une uniformité, d'un égalitarisme absolu et tout ça. Enfin, qui n'a pas marché, bien entendu. Donc, c'est resté une lettre qui n'a jamais été vécue dans la réalité. Mais dans la personne d'Abdu'l-Bahá, qui est l'ouvrage de Baha'u'llah, comme Chouy Fénier dit, il est l'exemple parfait, c'est-à-dire, comme Chouy Fénier dit, l'incarnation même de toute vertu bahaïe. Ça, c'est dans le passage. Il est l'incarnation même de toute vertu bahaï. Donc, Abdu'l-Bahá a vécu dans la réalité ce potentiel qui est inhérent à la foi bahaï, qui est inhérent à toute religion. Autrement dit, ce n'est plus un idéal à atteindre, ça a déjà été atteint dans la personne d'Abdu'l-Bahá. Et c'est pourquoi Abdu'l-Bahá dit, faites comme moi, suivez-moi. Parce qu'il a déjà fait le chemin. Donc, ce n'est plus un idéal utopique qui est au-delà de l'atteinte. Autrement dit, en vivant dans la réalité le plein potentiel de la foi, ça relâche le potentiel pour tout le monde. Ça ouvre la voie à tout le monde. Donc, Abdu'l-Bahá est la raison pourquoi la foi bahaï réalisera son universalité tandis que les autres religions ne l'avaient pas fait. Parce que dans les autres religions, ce potentiel restait toujours un potentiel inachevé. Okay? Le potentiel était réel, n'est-ce pas? Enfin, les philosophes comme Aristote nous ont déjà expliqué ça très bien. Un potentiel, ce n'est pas un rien. Le potentiel est une chose réelle, n'est-ce pas? Mais un potentiel peut ne pas être réalisé, n'est-ce pas? Comme un enfant qui meurt jeune, n'est-ce pas? Il a le potentiel d'avoir une vie d'adulte et tout, mais il peut ne pas réaliser ce potentiel. Donc, mais un potentiel est une chose réelle. Donc ce potentiel dans les autres religions était réel, mais ça restait inachevé. Mais dans la personne d'Abdu'l-Bahá, la perfection de la foi bahaï a été achevée. Dans la réalité vécue, achevée. Donc, en quelque sorte, l'universalité de la foi est déjà un fait accompli dans le personnage d'Abdu'l-Bahá.
Peut-être on peut lire ce texte.
Ok.
Il doit être considéré à jamais d'abord comme le centre et l'axe de l'incomparable covenant universel de Baha'u'llah, et encore comme son œuvre la plus exaltée, le miroir immaculé de sa lumière, le parfait exemple de ses enseignements, l'infaillible interprète de sa parole, la personnification de tout idéal bahaï, l'incarnation de toutes les vertus bahaïes, la plus grande branche issue de l'ancienne racine, l'organe de la loi de Dieu, l'être autour duquel tous les noms gravitent, la cheville ouvrière de l'unité de l'humanité, le symbole de la plus grande paix, la lune de l'orbe général de cette suréminente dispensation, titre et épithète qui se confondent et trouvent leur expression la plus élevée et la plus juste dans le nom magique d'Atul-Baha. Il domine et surpasse ces appellations. Il est le mystère de Dieu, expression choisie par Baha'u'llah lui-même pour le désigner. Cette dénomination, sans nous donner en rien le droit de lui assigner la station de prophète, nous indique comment les caractéristiques de la nature humaine, de la science et de la perfection se sont fondées.
Alors, donc, je voulais juste identifier l'idée principale que je voulais véhiculer avec ces paroles. Et c'est la chose suivante. Habituellement, quand nous parlons de l'alliance de Baha'u'llah et d'Abdu'l-Baha comme le centre de l'alliance, nous voyons nous éterrinons une vision minimaliste de l'alliance, c'est-à-dire la préservation de l'autorité de Baha'u'llah pour empêcher, pour garder la pureté des écrits. Et bien sûr, ça c'est le bottom line, n'est-ce pas? Ça c'est la chose le plus essentielle. Et donc on voit Abdu'l-Baha comme le premier maillon dans cette chaîne d'autorité, enfin Abdu'l-Baha, Shoghi Effendi, la maison de justice, et qui continuera, disons, au moins pour 1000 ans, jusqu'à la prochaine prophète et tout ça. Donc on voit Abdu'l-Baha comme le début de la chose, comme la première maillon, comme j'ai dit, dans ce chaînon d'autorité qui découle de Baha'u'llah. Mais en fait, c'est pourquoi j'ai choisi le titre « Pour toujours le centre de l'alliance ». Abdu'l-Baha est déjà au bout. Nous acheminons vers Abdu'l-Baha. Il n'est pas simplement l'intermédiaire entre Baha'u'llah et nous, etc. Au contraire, lui, il est déjà rendu là. Donc il sera toujours le but, l'idéal vers lequel nous tendons tous, n'est-ce pas? Et donc son rang est beaucoup plus exalté, enfin, évidemment, c'est déjà assez exalté d'être l'infaillible interprète, mais regardez tous les noms que Shoghi Effendi, les attributs qu'il donne. L'interprète infaillible, qui est la bottom line, comme j'ai dit, c'est juste un des attributs parmi tout un tas d'attributs, n'est-ce pas? Et ces attributs, donc, incarnés dans Abdu'l-Baha, c'est ce qui fait et fera que le potentiel qui est recelé dans la foi Baha'i sera relâché, sera réalisé, sera actualisé. Okay? C'est l'actualisation du potentiel dans le personnage d'Abdu'l-Baha. Et ça, c'est une chose qui n'a jamais été faite avant. Alors, c'est ce que je voulais dire.